au 99.1 88.9 CFNJ. C'est Lanaudière PM, votre magazine d'actualité de fin de journée. Voici Claude Fournel.
Lundi 16 février, tout d'abord, débutons l'émission avec cette bonne nouvelle aux Olympiques. Le Canada qui est allé chercher cet après-midi sa deuxième médaille d'or. C'est Megan Oldham qui décroche une deuxième médaille lors de ces Jeux. Cette fois, c'est l'or en ski acrobatique Big Air. Elle enregistre un score de 180,75. C'est la deuxième médaille de la journée pour le Canada, faut le rappeler, après l'argent de Courtney Saro en patinage de vitesse 1000 mètres un peu plus tôt aujourd'hui. À l'émission aujourd'hui, David Hervieux, président directeur général de Dévolution à la Valtrie, leader mondial en cybersécurité également avec Pierre Paquette. On va parler de scandale, le scandale Saclic, la SAAQ qui a carrément menti aux Québécois. Julien Rougerie sera avec nous de la Fondation Émergence. Il dénonce les thérapies religieuses de conversion. Mathieu Traversy, maire de Terrebonne, sera avec nous. La municipalité là, qui présente sa liste d'épiceries au gouvernement du Québec. Aussi à l'émission, Sébastien Nadeau, maire de l'Assomption, on va parler de logements sociaux. Mais tout d'abord, le code d'éthique imposé aux professeurs du primaire et du secondaire au printemps dernier est décrié. Les syndicats qui demandent des ajustements alors que dans les faits, le code ne fait que protéger les élèves d'abus potentiels. Il empêche les professeurs de devenir des lanceurs d'alerte. Et François Morin a discuté avec le président du syndicat de l'enseignement du Lanaudière, Mathieu Lessard.
T'es obligé de dire que dans le contexte dans lequel on se retrouve en lien avec le code d'éthique, la finalité, en quelque sorte, de ce code d'éthique-là fait en sorte qu'on vient censurer le personnel. Puis là, je veux dire le personnel enseignant parce que c'est ceux qu'on représente, là, mais l'ensemble des corps d'emploi aussi, quant à ce qui se passe réellement dans le milieu. Puis est-ce que c'est vraiment ça qu'on souhaite comme société? La question mérite d'être posée, hein? Qui connaît réellement la réalité du terrain, ce qui se passe entre les murs d'une classe, mais également ce qui se passe entre les murs d'une école, c'est le personnel, mais également le personnel enseignant, là, à proprement parler. Non pas les directions d'établissement ou les centres de services, le ministère ou, le cas échéant, là, la ministre actuellement. Parce que ces gens-là, évidemment, ils veulent préserver l'image du réseau. Puis ça, on se protège dans ce temps-là. Mais là, on vient censurer là le personnel enseignant dans les circonstances. Puis d'ailleurs, ça milite en lien avec le sondage là sur l'appui qu'a la population sur une meilleure protection des lanceurs d'alerte.
Avant d'en arriver là, faut quand même rappeler pour monsieur, madame, tout le monde, et la mémoire collective étant ce qu'elle est, c'est que ça a été établi pour, dit-on, protéger les élèves d'une certaine façon face aux enseignants. Et c'est là qu'il y a de l'abus.
Oui. On n'est pas contre, à titre de syndicat d'enseignants, là, contre la présence d'un code d'éthique. Puis ça découle, vous l'avez mentionné, là, de l'adoption du projet de loi 47, là, en ce qui concerne le personnel enseignant notamment, là, c'est pour protéger justement les enfants, les élèves, des actes qu'on pourrait qualifier de répréhensibles, voire criminellement dangereux. Puis ça, là, y a personne qui est contre ça. Le problème est que ça a été imposé par le ministre, évidemment, de Drainville, qui est venir là, mettre une chape de plomb sur le personnel enseignant. Puis, cette censure-là du personnel enseignant est venue par le FAMEN, venir protéger qui? Les centres de services et le gouvernement.
Et quand on parle justement là de restreindre ou même de censurer les lanceurs d'alerte, il y a des cas probants.
Il y a des cas probants, évidemment. Là, ça fait pas tant la une, mais on est en mesure, nous, d'avoir été interpellés, pas au niveau local, mais au niveau national, sur du personnel enseignant qui, constatant des situations problématiques. Puis là, vous savez, là, les gens, ils sortent pas dans les médias pour sortir dans les médias là comme ça. Il y a toujours des démarches à l'interne, soit au niveau des directions d'établissement, par la suite au niveau des représentations auprès du centre de service, que ce soit fait par le personnel enseignant ou soutenu par une organisation syndicale. Ensuite de ça, voire même des interventions auprès du ministère. Puis quand rien se passe, à un moment donné, il faut essayer de sortir. Mais là, il y a des gens qui se sont fait même taper ses doigts, puis là, je dis taper sur les doigts, c'est un mot poli, qui ont été sanctionnés, réprimandés par le simple fait d'avoir été approchés par des journalistes en lien avec des situations problématiques. Fait que là, je trouve que dans les circonstances actuelles, évidemment, c'est malsain lorsqu'on parle là, d'une société démocratique en santé, de venir protéger en quelque sorte les structures et non pas celles et ceux qui reçoivent les services.
Au niveau du centre de services scolaires des Samar, il n'y a pas eu de problème, donc vous risquez pas d'être sanctionné parce que vous me parlez.
Non, effectivement, il y a une certaine protection en ce qui me concerne, mais il n'en demeure pas moins que il faut quand même là, s'assurer d'avoir utilisé tous les canaux habituellement là, de communication avant d'effectuer une démarche d'ordre public. Mais puis proprement parlé au niveau local, bien évidemment, vous comprendrez qu'on n'a pas été informé de situation problématique. S'il y avait un personnel enseignant qui avait tenté de faire une sortie de la sorte, ben on en aurait été informé par la bande, mais à l'heure actuelle, il se passe rien là à cet effet.
La demande, c'est effectivement là, de rendre le code d'éthique plus conforme là, à la réalité.
Oui, dans le fond, il y a comme deux branches à ça. Hein. Il y a le fait de revoir le code d'éthique qui a été imposé par le gouvernement afin que le personnel, tout corps d'emploi confondu, puisse collaborer à son élaboration par le biais d'une consultation réelle là, et concrète. Ça, c'est une chose. Parce qu'au final, on sait que si on implique le personnel, puis ça, c'est bon dans n'importe quoi, dans le résultat de quelque chose qui va venir les encadrer dans le cadre de leur profession, de leur travail, ben ça va favoriser leur adhésion. Puis la deuxième chose, ben c'est de s'assurer que toute personne qui va voir, constater ou devoir dénoncer quelque chose, ben qu'ils puissent évidemment le faire. Donc, on les appelle les lanceurs d'alerte pour que justement le citoyen ou l'élève puisse au final être protégé. Parce que lorsqu'il y a des lanceurs d'alerte, là, ça touche à peu près 99,9% du temps des apprenantes et des apprenants. Donc là, qu'est-ce qu'on veut comme société? Est-ce qu'on veut justement masquer ou protéger certaines décisions d'ordre administratif, voire même de l'incompétence, parce que ça existe à tous les niveaux, ou si au contraire, on veut faire en sorte que personne n'en parle puis que ce soit les élèves qui en pâtissent, poser la question, c'est y répondre.
Est-ce que c'est réaliste compte tenu du contexte actuel, course à la chefferie, à la CAQ, échéancier électoral?
Moi, je pense que la ministre actuelle a hérité des décisions de Bernard Drainville. En l'occurrence, c'était M. Drainville qui avait imposé les codes d'éthique. Elle a l'opportunité, dans un contexte, oui, de course à la chefferie à la CAQ, mais également de période électorale là, qui est lancée légalement depuis le mois de janvier, il faut nécessairement qu'elle se mette au jeu. D'autant plus que le chef là, nouvellement élu au Parti libéral du Québec a annoncé la tenue d'États généraux sur l'éducation. C'est dans ses cartes. Donc, comme gouvernement, s'il souhaite justement là, se dégager d'un passé qui est un ce que je pourrais qualifier pratiquement de toxique dans le sens où les sondages ne leur prêtent véritablement pas une voie vers le pouvoir, ben mieux vaut tard que jamais de prendre un pas de recul puis d'assurer un travail de qualité enfin de se relancer comme gouvernement, mais surtout de relancer la confiance des citoyennes et des citoyens à l'égard des organismes publics.
Voilà, c'est François Morin qui s'entretenait avec Mathieu Lessard, président du syndicat de l'enseignement du Lanaudière. 16h14, dans un moment, Sébastien Nadeau, maire de l'Assomption.
Bonjour, c'est Kim de Joliette-Nissan. Chez nous, ce n'est pas juste des véhicules que vous trouvez. C'est une équipe qui vous accompagne à chaque étape avec des conseils clairs et un service qui fait la différence. Que ce soit pour l'entretien, vos questions ou vos besoins particuliers, Joliette-Nissan est là pour vous. Pendant l'événement, maîtrisez toutes les conditions, découvrez pourquoi Nissan est la marque numéro 1 des véhicules neufs selon J.D. Power. Venez nous rencontrer au 800 boulevard Basse de Roque à Joliette pour profiter de nos services rapides et de nos conseils d'experts. Joliette-Nissan, parce que chez nous, ce qui compte le plus, c'est vous.
Son X Plus vous offre une gamme complète de produits technologiques tels que téléviseurs, systèmes audio, domotiques, produits connectés et systèmes de sécurité. Recevez un service personnalisé afin de vous aider à faire le meilleur choix. Merci de choisir une entreprise locale. Son X Plus, joliette.com.
Combattre le froid par le froid. C'est ce que propose la fromagerie Victoria de Berthierville avec sa crèmerie ouverte à l'année. Crème glacée molle, Vic Mix, Sundae, slush, trempage de chocolat belge, on en a vraiment pour tous les goûts. En salle à manger, au service au volant ou en livraison, pas besoin d'attendre l'été pour vos plaisirs glacés. Fromagerie Victoria, 791 rue Gadoury à Berthierville.
Le Super Radio Bingo de CFNJ, c'est rassembleur, amusant et payant. C'est toujours 5 000 $ en prix avec les trois jeux. Chaque dimanche à 10h05. Et pour gagner, il faut jouer. As-tu ta carte?
Voici les noms de quelques dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ. À Saint-Didas-Dépanneur des Lacs, à Saint-Édouard-de-Masquinongée, Quincaillerie-Dépanneur 348, à Saint-Angèle-de-Prémont, Épicerie Jacques-Lessard, à Saint-Ursule-Dépanneur Marie-Lou, à Saint-Alexis-des-Monts, Dépanneur Beaussoir, à Saint-Paulin-Boucherie 4 Saisons et à Louisville, Tabagie Grand-Père, Dépanneur Régional et Dépanneur L'Escadre. La liste complète des dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ est à cfnj.net et sur l'appli CFNJ. 18 ans et plus, le jeu doit rester un jeu.
Votre Saint-Valentin s'est pas passé comme prévu?
Chérie, je te quitte, chérie. Je suis enceinte.
Chérie, ma mère vient habiter avec nous.
Coucou, mon gendre.
Vous aurez besoin de...
Simon Mercier, courtier immobilier résidentiel.
Et commercial.
C'est beau, l'amour. Royal Lepage Partenaire, agence immobilière.
Petit mot de circulation pour vous parler de la 40 Est sur le pont Charles de Gaulle. On signale un véhicule en panne. La voie de droite est entravée, ce qui fait que ça refoule là depuis un peu avant le boulevard Henri Bourassa à Montréal.
Lanaudière PM. Affaires municipales.
Comme dans plusieurs autres municipalités, la ville de l'Assomption là, est sous pression pour répondre à la demande de logement. Et selon le maire Sébastien Nadeau, il va falloir quand même attendre au printemps pour que l'organisme à but non lucratif Un toit pour tous annonce les premiers projets de création de logements sociaux sur le territoire de la MRC. Et Régent Turgeon a rencontré justement le maire de l'Assomption, Sébastien Nadeau.
Sébastien Nadeau, maire de l'Assomption, serait-il juste de dire qu'il y a eu puis qu'il y a encore un boom immobilier dans votre ville, ou en tout cas ces derniers temps?
Je vous dirais qu'il y a un boom de construction. Il y a beaucoup de demandes, beaucoup de gens qui veulent venir profiter, je pense, du bonheur de la ville de l'Assomption. C'est une ville où on est bien, c'est une ville qui est agréable, c'est une ville qui est belle. Faut tenter de préserver ça. Mais si vous regardez la croissance de la population depuis 2017, en 2017, on était à 22 800. Maintenant, on est rendu 25 000. Ça fait que bien souvent, je pense que les gens constatent qu'il y a énormément de construction. Mais le défi qu'on a, c'est qu'il y a de moins en moins de résidents par adresse, par porte. Et ça, c'est vrai dans toutes les villes. C'est pas typique à l'Assomption. Il y a, si vous regardez, il y a 10 ans, il y avait environ 2,8 personnes par porte. Maintenant, on est rendu à 1,9. Donc, ça prend plus d'habitations pour avoir à peu près la même population.
Est-ce que vous sentez que votre administration est sous pression pour justement pour répondre à la demande en logement?
Oh, tout à fait. Je pense que toutes les administrations le sont. Faut s'adapter, faut réagir. Il y a le défi du logement social, du logement abordable qui est toujours présent. S'il n'y a pas d'offres, il y a une pression sur les prix à la hausse. Et là, le nombre de familles qui tombent avec des problèmes, avec des défis de logement, augmente. Alors, c'est important qu'on garde cette offre-là en bonne santé. Comme je vous dis, ben l'Assomption, c'est une ville qui est courue, qui est appréciée. Donc, on n'a pas le choix de s'adapter à ça. Maintenant, faut être en mesure faut s'assurer qu'on garde les défis de circulation adéquats, que la ville est adaptée à recevoir ces nouvelles personnes-là.
Quelqu'un qui passe par ici verrait qu'il y en a eu des développements. Je pense notamment au chemin des commissaires, les tours en condominium au coin de l'Ange Gardien, boulevard Papin. On a déjà annoncé le domaine Arbois sur Laurent Lachigan. On a démoli l'ancien magasin Coupal à côté de la zone Actec. C'est plusieurs centaines d'unités, ça, là.
Oui, c'est près de plus de 1000 logements supplémentaires qui vont être... fait que ça, au fil des années, on devrait accueillir environ 2000 personnes de plus. Fait qu'effectivement, ça, c'est une réalité. Ça me fait toujours drôle quand j'entends tour. Chez nous, on limite la hauteur des bâtiments à 4-5 étages. Ça, c'est la limite que l'on permet à nos entrepreneurs. C'est sûr que la demande serait pour beaucoup plus, mais je pense qu'on doit préserver la nature de notre ville, sa personnalité. Alors, c'est important d'être exigeant par rapport à ça.
Est-ce qu'on a procédé à des changements de zonage pour accommoder tous ces développements résidentiels?
Non. Nos terres agricoles, c'est 87 % de notre territoire et on veut préserver ça. Donc, il n'y a aucune terre agricole qui a été dézonée pour accueillir du logement. Par contre, tout ce qui nous reste en terrain développable pour l'habitation, bien, on fait de la densification, on fait de la densité. Le bungalow, je vous dirais, qui est appelé à disparaître dans les plans, dans les visions des villes. Pas seulement parce qu'il y a le défi de la densification, il y a le défi d'accueillir plus de personnes, mais c'est aussi de moins en moins en demande. C'est-à-dire que les jeunes ne souhaitent plus avoir à s'occuper d'un grand terrain de 8-9 000 pieds carrés. Pour la majorité, au niveau des jeunes, c'est plus le voyage, c'est plus moins de pression et plus de dire, bon, on a un pied à terre, puis on profite de la vie ensuite. Donc, les besoins ont changé, la demande a changé. Alors, nécessairement, les entrepreneurs s'y adaptent.
La demande a changé à l'Assomption, mais pour autant, est-ce que le plan d'aménagement du territoire de la MRC, lui, est respecté, il va dans le bon sens.
Oui, la MRC de l'Assomption est un très, très bon joueur en termes de plan d'aménagement. On est déjà rendu au volet 3, on travaille déjà sur le volet 4, alors qu'il y a des MRC qui sont encore au niveau 1 et 2. Alors, on est des bons joueurs, on est des bons élèves par rapport à ça. On est lié aussi au plan métropolitain d'aménagement et de développement de la CMM. Et ça, on atteint déjà les cibles du nouveau PMAD qui est développé ici. Donc, dans la MRC de l'Assomption, oui, effectivement, la gestion du territoire, l'aménagement du territoire est prioritaire, mais toujours dans le but de préserver les terres agricoles, de préserver nos milieux naturels, nos milieux humides. Ça fait 15 ans, 20 ans qu'on est cité en exemple par rapport à ça, puis on veut continuer.
On véhicule encore cette idée qu'il y a une crise du logement abordable, du logement sociable. On sait que la MRC a créé le BNL Un toit pour tous il y a au moins 2 ans. Ça porte fruit, on trouve des terrains, il y a des projets à venir.
Oui, je pense qu'il va y avoir des projets qui vont être annoncés bientôt. C'est de longue haleine, hein, parce que avec le logement abordable, il faut trouver des plans de financement. Donc ça, il faut parler au gouvernement du Québec, il faut parler au niveau de la CMM. Ensuite, il y a des joueurs comme de la FTQ qui peuvent s'impliquer aussi. Ou même des jardins, des fois qui ont des programmes. Alors on tente d'aller chercher le maximum pour que le coût à la porte soit le plus bas possible. Et ça, c'est du long travail. Moi, je pense que d'ici le printemps, on va être en mesure d'annoncer des nouveaux projets. Mais il faut savoir aussi que la Ville de l'Assomption a mis des droits de préemption sur du multilogement où il y avait plusieurs portes à proximité du centre-ville. Et l'année passée, on a déjà fait l'acquisition d'un 8 logements pour s'assurer qu'on le préserve pour les logements abordables.
Dernier point, et puis ça pourrait être controversé, on dit que ça coûte cher s'installer à l'Assomption, M. Nadeau. Vrai ou faux?
Ben, je pense que c'est pas plus cher que les autres villes. On est dans le marché, on est dans la même réalité. C'est sûr que à l'Assomption, si vous décidez d'avoir une ville qui est un peu moins urbanisée, parce qu'on a 87% de nos terres qui sont agricoles, qui sont préservées, ben vous allez avoir de la verdure. Mais il faut savoir qu'une terre agricole, c'est beaucoup moins payant en termes de taxation. C'est sûr que si on va avoir des services comme des arénas et des choses comme ça, nos citoyens sont très bien servis en termes de services. On a une très belle qualité de vie chez nous. Mais aussi en même temps, on a le devoir de garder ça de façon le prix de la taxation compétitive. Et on est rendu dans les 50%. Quand on se compare à les autres villes de la communauté métropolitaine de Montréal, on est dans les 50%. Donc, il y avait une légende urbaine qui disait que l'Assomption, c'était cher. Je vous dirais que depuis environ 8 ans, à tous les années, on a battu l'inflation. Alors, la situation est contrôlée ici.
Voilà, c'est Régent Turgeon qui s'entretenait avec le maire de l'Assomption, Sébastien Nadeau.
Lanaudière PM. Affaires municipales.
Et puis après l'Assomption, Régent Turgeon s'est transporté vers Terrebonne où la ville présente une véritable liste d'épiceries au gouvernement du Québec dans le cadre des consultations pré-budgétaires. Terrebonne qui tire dans toutes les directions là, pour réaliser divers projets qualifiés de majeurs. Et d'entrée de jeu, le maire Mathieu Traversy confirme qu'une excellente nouvelle doit être annoncée en fin de semaine ou à la fin de la semaine. Et Régent Turgeon, oui, l'a rencontré.
Ça fait des années qu'on travaille à Terrebonne pour essayer de faire atterrir un quartier universitaire en territoire, donc moulinois pour les étudiants du sud de la Naudière, peut-être même aussi pour les étudiants de l'est de l'île de Montréal. Donc, on souhaite, évidemment, avec le gouvernement du Québec, l'UQTR et la ville de Terrebonne, parvenir donc à la construction d'une première phase de 1000 étudiants diplômés potentiels qui pourront donc fréquenter l'institution scolaire. On est donc près du côté de l'UQTR. La ville de Terrebonne aussi est prête à acheter le terrain en 2025. Il manque juste le feu vert du gouvernement du Québec.
On s'attendait à une annonce l'automne dernier là pour un budget concernant un bureau de projet qui nous en aurait appris pas mal plus sur justement le quartier universitaire. Est-ce qu'on entretenait des inquiétudes jusqu'à tout récemment?
Bien, c'est certain que des gros projets comme celui-là, on l'a vu avec le pont de la 25, on l'a vu avec le train de l'Est, on en entend parler pour l'autoroute 19 ou la 337 dans le secteur La Plaine. Des projets d'envergure, ça prend du temps. Et donc, tant que c'est pas fait. Donc, il peut y avoir des fois bien des études, mais tant que la pépine n'est pas sur le chantier, M. Turgeon, il n'y a jamais rien de garanti. Donc, le bureau de projet était une première étape. Maintenant, il faut qu'on aille donc du côté des plans et devis, qu'on puisse donc commencer à construire le modèle de la phase 1 donc de cette université. Et c'est là-dessus qu'on espère avoir des réponses du gouvernement dans le cadre du budget qui s'en vient.
Dans vos demandes au gouvernement, vous parlez également de préserver, de mettre en valeur le Vieux Terrebonne, un site patrimonial. mais les subventions ont l'air à se faire attendre.
Mais écoutez, on a la chance d'avoir à Terrebonne le 14e site en importance, donc historique au Québec. Le ministre Lacombe est venu en juin dernier faire l'annonce, donc de la reconnaissance nationale de la valeur patrimoniale de notre centre-ville ici historique. Une fois que ça s'est fait, qu'on a la reconnaissance, qu'on est tous sur la même longueur d'onde, bien évidemment qu'on veut avoir les moyens de le mettre en valeur, ce patrimoine-là, de le préserver, puis de le faire connaître à l'ensemble de la population du Québec, puis des visiteurs de partout à travers le monde entier qui viendront le visiter.
On peut penser que les travaux de restauration pourraient être retardés, à la limite coûter plus cher même.
Ben écoutez, c'est certain qu'il y a davantage de bâtiments maintenant qui vont être inclus dans la zone patrimoniale et historique. Donc, il y a un plus grand potentiel de demande de subventions. On aimerait ça évidemment que ce soit reconnu par Québec. Puis il y a également aussi le contexte de mettre en valeur cette signature historique. Lorsqu'on débarque dans le Vieux-Terrebonne, maintenant qu'on est un 14e site en importance, il y a des ajustements qu'on va faire pour que les visiteurs et les citoyens puissent s'y reconnaître là, facilement.
Un gros projet pour Terrebonne, M. Traversy, le Terra 8, un 8e parc industriel pour votre ville. On a besoin d'un coup de pouce de Québec pour supposément couvrir les coûts de développement des infrastructures de ce parc, un parc vraiment essentiel au développement économique de la ville.
Mais certainement, parce qu'une ville, ça a des dépenses, M. Turgeon, mais ça doit aussi avoir des revenus. Un 8e parc industriel, évidemment, en termes de retombées économiques pour la ville de Terrebonne, mais aussi en termes de création d'emplois pour les Terreboniens et Terreboniennes, puis les gens de la Naudière qui veulent travailler et vivre dans notre région, ça devient un apport extrêmement important. Il y a un petit coup de pouce qui est demandé là au niveau des infrastructures pour le gouvernement du Québec, mais vous savez, l'enjeu des infrastructures pour toutes les villes du territoire québécois, c'est un enjeu majeur.
La crise du logement, là, M. Traversy, votre administration a une stratégie d'habitation. On souhaite bâtir 1200 logements abordables sociaux et communautaires d'ici 2035. Vous demandez un réengagement financier durable du gouvernement. On se croise les doigts encore à ce chapitre-là.
Ben écoutez, oui, parce que il y a beaucoup de critiques qui sont faites à l'endroit du gouvernement du Québec sur l'abordabilité là, donc des logements qui sont disponibles sur le marché. Puis là, je veux pas rentrer dans le détail, mais il y a des logements qui sont sociaux, de type un peu plus HLM, il y a des qui sont en fonction du revenu de la personne. Il y a du logement abordable qui est promu par le gouvernement du Québec, qui est selon la moyenne ou la médiane donc des locations du secteur. C'est sûr qu'à Terrebonne, les loyers sont quand même assez élevés. Donc, même quand on dit abordable, c'est pas nécessairement abordable pour tous. Donc, là-dessus, on a besoin d'un coup de main du gouvernement pour garantir la mixité sociale qu'on souhaite avoir sur le territoire de nos villes et être capable d'avoir des logements pour tous les moyens et tous les goûts.
Un mot à la mode, infrastructure, des besoins en infrastructure municipale. Vous vous attendez à des investissements là, massifs. Est-ce que ça pourrait compliquer votre planification stratégique au moment où on se parle?
C'est certain que le défi des infrastructures au niveau des villes est majeur en termes de planification pour le développement. Donc, longtemps, les villes ont laissé peut-être de côté les infrastructures souterraines. Lorsqu'une ville est en croissance comme Terrebonne, elle a besoin de fournir en eau potable ses secteurs, d'être capable de desservir aussi les eaux usées. Il faut que les réseaux, routiers répondent à l'appel. Donc, on a du potentiel à Terrebonne pour croître, pour créer de la richesse, pour créer du logement puis du développement, mais il faut que les infrastructures suivent la cadence au même niveau. Puis c'est là-dessus qu'on est en train de s'ajuster.
Régent Turgeon qui rencontrait le maire de Terrebonne, Mathieu Traversy, là, qui adresse sa liste de demandes pour le gouvernement du Québec. Il est 16h28.
La circulation est une présentation de Joliette Nissan. Contactez-nous au 450-756-4686 parce que chez nous, ce qui compte le plus, c'est vous.
Ouais, tout d'abord, la 40 Est pour Charles de Gaulle. Assez difficile en ce moment. On a un véhicule en panne sur Charles de Gaulle, à voie de droite, qui a été retranché. Ce qui fait que ça refoule, je vous dirais, depuis avant le boulevard du Tricentenaire. Pour prendre son mal en patience, là, il y a une bonne perte de temps là, pour atteindre Charles de Gaulle. Peut-être l'alternative, ce serait de prendre Henri Bourassa. Et Henri Bourassa et, je vous dirais, Sherbrooke, pour aller prendre le pont Le Gardeur. De ce côté-là, ça va bien. Là. Le Gardeur approche facile autant par Sherbrooke que par Notre-Dame. La 25 Nord, secteur Repentigny... secteur Laval, plutôt. Secteur de la jonction avec la 440. Ça va quand même assez bien. Traversée facile vers l'île Saint-Jean et Terrebonne. Le secteur Mascouche, 25 Nord, ça fonctionne très bien. Pont-Sophie Masson, facile en ce moment. Et finalement, autoroute 640, ça va bien dans les deux directions, entre la 25 et la 40. Les nouvelles dans un instant avec Pierre Jubinville.
Confiez votre véhicule à des pros de confiance. Chez Lustre Auto Saint-Félix, on redonne l'éclat d'un véhicule neuf grâce à notre gamme complète de services. Lavage intérieur et extérieur, cire rapide lustrée, traitement aquapelle longue durée, restauration des phares et bien plus. Un service professionnel, des prix compétitifs et la satisfaction garantie. Venez nous voir au 4164 rue principale à Saint-Félix. Lustre Auto Saint-Félix, bon service, bon prix, puis un char qui brille.
L'embarquement pour le vol 246 à destination de Montréal est retardé de 50 minutes.
Ah, ben là!
On dirait que c'est l'heure d'Ojo.
Play Ojo? Bonne idée!
Profitez de tous vos jeux préférés comme Wolf Gold et Joker's Jewels et des jeux exclusifs que vous ne trouverez nulle part ailleurs.
Wouhou! J'ai gagné!
Sentir le plaisir, Play Ojo!
L'embarquement commencera dès que les passagers auront fini de célébrer.
Yeah! Ouvert à tous les joueurs de 18 ans et plus, il ne s'agit pas d'un site de jeu. Veuillez jouer de manière responsable.
Êtes-vous à la recherche du bonheur? Ou le cherchez-vous pour vos parents? Aux Habitations Bordelot, on croise chaque jour des centaines de résidents heureux qui affichent leur plus beau sourire. C'est certainement parce qu'on a créé pour eux un milieu de vie chaleureux, sécuritaire et dynamique où il fait bon vivre. Et saviez-vous qu'en plus, nos cuisines adaptent leur menu selon les goûts de leur clientèle? Venez nous visiter et prenez le temps de vivre. Aux Habitations Bordelot, le bonheur est là. Visitez habitationsbordelot.com.
L'événement Avantage Hyundai est en cours. C'est le moment comme jamais de vous procurer une Elantra 2026. Louez la version Essential pour 78 $ par semaine avec 0 $ d'acompte. Et profitez vous aussi d'une tranquillité d'esprit grâce à la meilleure garantie sur véhicule neuf de sa catégorie. Avec 0 $ d'acompte et 50 garanties limitées sur les véhicules neufs, j'ai zéro crainte à vous garantir un coup de foudre. Faites l'essai d'une Elantra 2026 dès aujourd'hui. Location de 48 mois au taux de 3,49%. Des conditions s'appliquent. Visitez Hyundai Canada pour les détails.
Ouais, c'est l'actualité de ce lundi 16 février. En manchette, la SAAQ qui a menti à tout le monde pendant 10 ans. François Legault qui, pour sa part, fait porter le blâme aux dirigeants et Charles Milliard qui fait du logement sa priorité. Pierre Jubinville, tout d'abord, le juge Galland qui a présenté son rapport de 300 pages sur la gestion du programme Saclic.
Oui, on attendait cette brique depuis longtemps. Alors, il affirme, M. Galland, que la direction de la SAAQ a menti sur l'état de réalisation du projet CASA. C'est le projet que ça clique. Louis Lacroix nous explique que le commissaire soutient que le gouvernement Legault savait dès 2023 qu'il y avait des dépassements de coûts.
Le juge Galland ne met pas de gants blancs.
La direction de la SAAQ de l'époque a sciemment menti au gouvernement et aux parlementaires sur le déroulement du programme.
Mais selon le commissaire, à partir de 2023, les élus ont eu accès à l'information.
Certaines personnes au gouvernement ont obtenu à certains moments des informations fiables dans le déroulement du programme.
Si le cabinet de François Legault a été informé des dépassements de coûts, rien n'indique cependant que le premier ministre savait. Sur le projet CASA, le commissaire soutient que la SAAQ a vu trop grand.
Le programme était trop vaste, trop ambitieux et devait être mis en œuvre trop rapidement.
Il ajoute que l'État est dépendant des géants de l'informatique et qu'il devrait s'en affranchir.
L'État doit renforcer ses compétences numériques et développer l'expertise pour mettre en œuvre nos propres projets informatiques.
Louis Lacroix, Cogeco Nouvelle, Québec.
Et celui qui est toujours premier ministre pour quelques semaines, François Legault, a mis son grain de sel en commentant le rapport.
Oui, il admet que son gouvernement aurait pu faire mieux pour éviter le fiasco. Mais cependant, M. Legault remonte quand même à loin, 2017. Il porte le blâme sur les libéraux de Philippe Couillard et aussi, évidemment, les dirigeants de la Société d'État. Carl Marchand.
L'origine du fiasco Saclic retourne en 2017, selon François Legault. C'est le gouvernement libéral qui est responsable d'un mauvais contrat pour la création des services en ligne.
Les clauses de dépassement de coûts, de partage de risques, n'étaient pas à l'avantage de la SAAQ.
Le premier ministre maintient avoir eu vent des dépassements de coûts de plus de 500 millions de dollars que l'an dernier, alors que le rapport Galland parle plutôt de 2023. Les vrais responsables, selon lui, les hauts dirigeants de la SAAQ.
C'est important, la vérité, c'est que la direction de la SAAQ a menti à notre gouvernement.
François Legault s'engage à mettre en œuvre les recommandations de la commission Galland. Il a aussi demandé d'étudier les recours légaux qu'on pourrait prendre contre les dirigeants de la SAAQ qui ont menti au gouvernement. Ici Carl Marchand, Cogeco Nouvelles. Montréal.
Et les deux candidats à la direction de la CAQ ont réagi. Christine Fréchette promet de sévir contre les responsables de cet échec. Bernard Drinville lui affirme que l'imputabilité des dirigeants des sociétés d'État, les sous-ministres, leurs adjoints, devra prévaloir sur la sécurité d'emploi.
Et Pierre, il y a un des principaux acteurs, l'ex-ministre Bonnardel, là, qui est pas content.
Ouais, il affirme qu'il a payé un fort prix politique dans ce dossier. Il estime qu'il ne pouvait pas remettre en question ce que lui présentait la SAC.
Je suis qui, moi, pour dire ça à une PDG qui est là depuis une dizaine d'années? Je me protège comment contre le mensonge face à des gens aujourd'hui que je vais qualifier de malhonnêtes? Malhonnêtes qui nous ont totalement trompés. Quand ils m'ont annoncé que le budget, là, au début de l'année 2021, qui était de 682 millions, mais qui, au contraire, une augmentation qui avait été de 375 millions. Le projet, là, il a été gonflé de 300 millions.
Et puis maintenant, des réactions, Pierre, de l'opposition?
Oui, deux réactions. Celle du député libéral Monsef Deragy, qui affirme que tout le monde a menti au gouvernement, et ce, pendant de nombreuses années.
C'est que le gouvernement caquiste, qui a démontré, lors du dépôt du vérificateur général, qu'il ne savait rien et qu'il n'était pas au courant jusqu'au dépôt du rapport du vérificateur général, est fausse. Le gouvernement Legault nous a menti parce que, à la lumière de cette chronologie, M. Kerr était au courant, M. Bonnardel était au courant, le cabinet du Premier ministre était au courant, et ma grande surprise, le ministère des Finances avec le montant de 682 millions de dollars.
Le Parti québécois affirme pour sa part que le gouvernement a sciemment menti à la population, tout le monde dit la même chose, sur les dépassements de coûts, et il devrait être imputable. On écoute Pascal Paradis.
Et les conclusions de fait du rapport Galant aujourd'hui sont dévastatrices pour la crédibilité, le sens de l'honnêteté du gouvernement de la CAQ, parce que il y a des conclusions qui indiquent très clairement qu'au moins à partir de juin 2023, et j'y reviendrai sur la période qui précède, mais au moins à partir de juin 2023, la Commission dit que le gouvernement avait l'information juste, qu'elle n'a aucune raison de penser qu'on cachait des informations. Donc, le gouvernement de la CAQ avait tout en main. La conclusion, c'est que les ministres concernés, le premier ministre, le gouvernement de la CAQ, ont menti aux Québécois à partir au moins de 2023 sur leur connaissance des dépassements de coûts.
Et puis, en terminant, Pierre, le nouveau chef libéral Charles Milliard veut s'attaquer au problème du logement.
Oui, selon lui, s'il s'agit d'un des principaux problèmes auxquels fait face le Québec, il veut notamment accélérer le processus d'approbation en construction.
Créer du logement abordable, améliorer les processus d'autorisation de construction. Quand je parle de changer le rapport de force avec les municipalités, c'est aussi leur donner des outils pour que ça aille plus vite. Améliorer des processus administratifs. Il y a des villes parfois où on doit déposer une demande. Il y a un comité qui nous revient seulement par courriel un mois plus tard. Le conseil de ville se rencontre un autre mois plus tard. L'air de rien, on a perdu 3-4 mois, puis les constructions se font pas.
Bon, voilà. Merci, Pierre Jubainville.
Bonne soirée.
Mot de circulation pour terminer ce bulletin de nouvelles. Là, c'est vraiment pas facile cet après-midi, 40 Est. Bon, on a signalé un peu plus tôt un véhicule en panne sur Charles de Gaulle, voie de droite entravée sur Charles de Gaulle. Et là, on vient de nous signaler, à la hauteur du tricentenaire, toujours 40 Est, un véhicule en panne, voie de droite entravée, donc à la hauteur du tricentenaire. Ce qui fait que là, ça refoule depuis avant même l'avenue Marien. Évitez la métropolitaine Est, là, si vous voulez aller prendre Charles de Gaulle. Changez vos plans. Et Sherbrooke reste une bonne alternative ouais, pour aller chercher le pont Le Gardeur.
Lanaudière PM.
Lanaudière PM.
Claude Fournel.
CFNG.
Lanaudière PM. Psychologie.
Ouais, vous avez peut-être déjà entendu parler de ces fameuses thérapies de conversion. Thérapies de conversion qui, en fait, sont souvent religieuses et on prend une personne homosexuelle puis on essaie de la convertir. La Fondation Émergence qui sera de passage à Notre-Dame-des-Prairies le 24 février prochain dans le cadre de cette tournée de formation qui s'appelle « Les thérapies de conversion, c'est un crime, pas de l'aide ». La rencontre aura lieu au 34 de la première avenue du côté de Notre-Dame-des-Prairies. François Morin s'est entretenu là-dessus avec Julien Rougerie, qui est formateur spécialiste contenu à la Fondation Émergence.
La fondation est en tournée. Vous serez de passage dans la région le 24. C'est donc dire qu'il y a un besoin là pour sur le fait de devoir dénoncer les thérapies de conversion.
Oui, alors il s'agit de les dénoncer, mais il s'agit aussi de comprendre qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, comment les reconnaître, comment accompagner les victimes, et aussi savoir c'est quoi le cadre juridique autour des thérapies de conversion, que ce soit les recours aux criminels ou les recours aux civils. Donc on se déplace à travers tout le Québec pour sensibiliser les personnes à cet enjeu.
Je ne sais pas si on peut quantifier la problématique dans la région, mais j'imagine qu'on n'y échappe pas, c'est qu'il y a des gens qui sont pointés du doigt et sont peut-être tentés justement, ou se culpabilisent, et sont peut-être tentés d'aller voir justement sur ces fameux, entre guillemets, thérapeutes.
Oui, effectivement. Alors, il y a des études au Québec, hein, on estime que c'est entre 4,4 et jusqu'à 20% des personnes LGBTQ+, qui ont subi une forme de thérapie de conversion dans leur vie. Donc au moins 4,4 des personnes LGBTQ+. Et dans la région de la Naudière, comme dans toutes les régions du Québec, c'est à peu près 10% de la population qui est LGBTQ+. Et vous avez raison de dire que parfois, les victimes de ces thérapies de conversion-là, c'est elles-mêmes qui sont allées chercher des services. Pourquoi? Parce que les thérapies de conversion, elles se nourrissent du rejet de la diversité sexuelle et de genre. Donc, tant qu'il y aura de la stigmatisation, tant qu'il y aura des gens qui ont de la difficulté à s'accepter ou que leur entourage a de la difficulté à accepter, il y aura toujours des phénomènes, là, de même si c'est criminalisé, des phénomènes de thérapie de conversion.
Comment on peut faire pour stopper justement ces gens-là? Est-ce qu'il y a un moyen légal ou effectivement on peut faire intervenir les forces de l'ordre?
Oui, absolument. C'est criminel depuis le 7 janvier 2022. Donc, même par exemple, une publicité pour une thérapie de conversion ou quelqu'un qui en subit une, les personnes qui commettent ce genre de fait, c'est désormais un acte criminel et ça peut exposer jusqu'à 5 années d'emprisonnement. C'est ce qui est prévu dans le code criminel. Et au niveau du Québec, il y a aussi des recours aux civils qui sont possibles. Donc là, on peut poursuivre la personne qui vous a fait une thérapie de conversion pour obtenir des dommages et intérêts, un dédommagement pour les conséquences que vous avez subies à cause de cette thérapie de conversion.
Et concrètement, dans les conférences, parce que je le répète, là, vous serez chez nous bientôt, qu'est-ce qu'on discute là, avec les participants?
Alors, tout d'abord, on parle de c'est quoi la diversité sexuelle et de genre. C'est des notions qui sont connues souvent du grand public, mais c'est toujours bien de revenir un petit peu sur de quoi on parle exactement lorsqu'on parle de personnes gays, lesbiennes, bi, trans, non-binaires, etc. Puis on parle des enjeux autour des minorités sexuelles et de genre. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des thérapies de conversion, que les gens vont aller vers ça? D'où ça vient le fait qu'on a longtemps considéré que c'était une maladie mentale? Il n'y a pas si longtemps que ça, hein, on considérait la diversité sexuelle et de genre comme une maladie qu'il s'agissait de traiter. On apprend à reconnaître les thérapies de conversion, les différentes formes que ça prend, les conséquences que ça peut avoir. Et on voit également c'est quoi les recours juridiques, que ce soit au criminel ou au civil. Et on voit aussi c'est quoi les bonnes pratiques d'inclusion générale vis-à-vis des thérapies de conversion. Parce que pour qu'une personne puisse se confier à vous, qu'une personne puisse porter plainte, elle a besoin d'abord en sécurité dans les milieux. Et on termine aussi avec un témoignage d'une victime de thérapie de conversion.
Est-ce que, à votre connaissance, il y a des exemples de thérapeutes, on les appelle comme ça, encore entre guillemets, dans la région qui sont suspectés ou qui ont fait l'objet justement de poursuites?
Alors, à ma connaissance, il n'y a pas eu, même à l'ensemble du Canada et du Québec, il n'y a pas de personne qui a été condamnée au criminel pour les thérapies de conversion. Donc ça peut s'expliquer par le fait que la loi, elle est récente et elle n'est pas rétroactive. Au niveau du criminel, c'est différent au niveau civil. Et aussi, c'est un peu comme le même phénomène vis-à-vis des violences conjugales, etc. C'est très compliqué pour les personnes de porter plainte, hein. Imaginez si vous subissez une thérapie de conversion et que vous avez du mal à vous accepter en tant que personne LGBTQ+, allez pousser la porte d'un poste de police pour porter plainte pour thérapie de conversion, ça revient à faire votre coming out devant l'agent de police ou l'agent de police. Donc il y a pas mal de freins comme ça qui font que c'est compliqué pour les victimes de porter plainte.
Bon, voilà, c'est François Morin qui s'entretenait avec Julien Rougerie, les formateurs et spécialistes contenus de la Fondation Émergence. On parlait de thérapie de conversion. C'est carrément illégal. Sachez que c'est du brainwashing religieux. Là, on peut pas, y a pas d'autre mot pour dire à quel point c'est complètement ridicule. Il est 16h44. Un petit mot de circulation pour vous dire que ça va mieux. Le 40 Est sur le pont Charles de Gaulle, il y avait un véhicule en panne, voie de droite. Ça a été dégagé. Donc, dans ce secteur-là, ça va bien. Par contre, à la hauteur du boulevard du Tricentenaire, on a toujours un véhicule en panne, voie de droite. Dans un instant, Pierre Paquette.
Son X Plus vous offre une gamme complète de produits technologiques tels que téléviseurs, système audio, domotique, produits connectés et systèmes de sécurité. Recevez un service personnalisé afin de vous aider à faire le meilleur choix. Merci de choisir une entreprise locale. SonXPlusJoliette.com.
L'échappée grille et bar sportif est de retour dans ton salon grâce à la livraison DoorDash. Profite de nos plats savoureux et de nos prix abordables pour te faire un vrai festin digne du resto directement dans ta cuisine. Découvre notre menu et l'horaire de livraison via nos réseaux sociaux. Ah ouais donc!
Ici Catherine Barry et Tania Devillère, vos pharmaciennes propriétaires de la pharmacie Jean Coutu de Saint-Gabriel-de-Brandon.
Avant de partir en voyage, pensez à préparer une trousse santé à apporter avec vous. Nous allons la personnaliser afin qu'elle convienne à vos besoins et aux risques de votre destination. Lorsqu'on voyage, il est également recommandé de s'informer sur les différentes maladies possibles. Nous pouvons vous prescrire un antibiotique pour la diarrhée du voyageur et un traitement préventif pour la malaria ou le mal aigu des montagnes. Et n'oubliez pas de mettre à jour votre carnet de vaccination. Nous pouvons vous prescrire et vous administrer les vaccins nécessaires.
Pour être bien conseillé, appelez-nous au 450-835-5071 ou venez nous voir en pharmacie au 185 rue Saint-Gabriel à Saint-Gabriel-de-Brandon.
Bonjour, c'est Kim de Joliette-Nissan. Chez nous, ce n'est pas juste des véhicules que vous trouvez. C'est une équipe qui vous accompagne à chaque étape avec des conseils clairs et un service qui fait la différence. Que ce soit pour l'entretien, vos questions ou vos besoins particuliers, Joliette-Nissan est là pour vous. Pendant l'événement Maîtrisez toutes les conditions, découvrez pourquoi Nissan est la marque numéro 1 des véhicules neufs selon J.D. Power. Venez nous rencontrer au 800 boulevard Basse de Roque à Joliette pour profiter de nos services rapides et de nos conseils d'experts. Joliette Nissan, parce que chez nous, ce qui compte le plus, c'est vous.
Les Filles du Nord, c'est pas seulement un nom, c'est une manière d'habiter notre métier.
Il y a des maisons qui ont vu pousser des enfants à coups de rire et de grandeur gravés dans les cadrages. D'autres qui ont été retapés à coups des manches retroussées d'un dimanche bien fatigué.
Quand vient l'heure de passer le flambeau, on prend le temps, comme on plie une courte poigne, cousue à la patience.
Avec ceux qui laissent un foyer derrière, on veille à ce que le fruit de tout ce qui a été bâti trouve preneur à sa juste valeur.
À ceux qui cherchent un nouveau toit, on balise le chemin pour que chaque détour ait du sens et chaque pas sa raison.
On marche aux côtés de ceux qui quittent autant qu'avec ceux qui arrivent. Le cœur pour comprendre, la tête pour guider et les compétences pour évaluer.
Les Filles du Nord, une manière de travailler
qu'on cultive avec fierté.
Les Filles du Nord, équipe immobilière et Max Prestige, 514-503-8684.
À CFNJ, voici le commentaire de Pierre Paquette.
Salut Pierre.
Oui, bonjour.
Le juge Denis Galland qui déposait son rapport aujourd'hui sur la fiasco Saclic. Et là, ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est que la SAAQ a carrément menti aux Québécois pendant près d'une dizaine d'années.
Oui, mais c'est donc c'est la principale conclusion du rapport là, que la direction de la société de l'automobile, peu importe qui était le directeur général, d'ailleurs, ça s'est suivi, là, on présentait une vision rose de la situation alors que les coûts augmentaient sans arrêt, puis les délais aussi augmentaient. Et donc, c'est les principaux visés. Puis ça amène le premier ministre François Legault à envisager des poursuites. Moi, à mon avis, ça ira pas très, très loin. Mmh. Mais il faut bien donner une réponse au rapport de la commission Galland.
Le juge Denis Galland qui raconte que la société d'assurance automobile qui a accordé donc un contrat de 458 millions sur 10 ans en 2017 pour ce programme qui était, selon lui, trop gros, trop ambitieux et qui devait être développé trop rapidement.
Oui, exactement. D'ailleurs, c'est une de ses recommandations, là, parce qu'évidemment, j'ai pas tout lu le rapport. Mmh. Il y a 500 quelques pages, 586 pages. Mais une des principales recommandations, c'est justement de doter le gouvernement du Québec d'une expertise en informatique, parce que d'une certaine façon, ils se sont fait monter en bateau par des firmes informatiques qu'on appelle l'Alliance là, dans le rapport, parce qu'ils n'avaient pas suffisamment d'expertise dans ce domaine-là, donc on leur racontait n'importe quoi. D'ailleurs, il y a ce fameux cette augmentation des tarifs horaires payés à des chargés de projet, c'est passé à un moment donné de 85 $ à 236, puis ensuite c'est monté à presque 300. Alors donc, ça c'est la principale recommandation, je dirais, du rapport, là, c'est que le secteur public québécois se dote d'une expertise en informatique avant de se lancer dans des projets de cette ampleur-là. Et on sait qu'il y en a plusieurs actuellement en cours, là, dans la santé en particulier, mais dans d'autres domaines aussi. Alors, il risque d'y avoir d'autres scandales s'appliquent. Si le gouvernement du Québec se dote pas des outils nécessaires, ça va un peu à l'encontre de la politique du gouvernement de la CAQ actuellement, qui a tendance à couper dans les effectifs de la fonction publique, alors que ce que le rapport Galland propose, c'est davantage d'avoir d'experts, d'expertise, de mieux s'équiper à l'interne pour être capable de faire face à ces défis-là.
Dans ce type de rapport-là et d'enquête, la population cherche à pointer du doigt un responsable. L'ancien ministre des Transports, François Bonnardel, là, qui s'en tire quand même assez bien.
Oui, assez bien. Si on compare, par exemple, à Geneviève Guilbeault, qui carrément, elle, se prend, pas une baffe, là, mais quelque chose d'assez fort du côté de la commission. Parce que on révèle ce qu'on savait déjà, là, mais c'est officialisé qu'elle a menti sur le moment où elle a été informée des dérapages de l'ensemble de cette opération-là. Elle a toujours soutenu que ça a été, même chose d'ailleurs pour François Legault, que ça a été au moment où la vérificatrice générale a sorti son rapport en 2025, alors que la commission établit très bien que à la fois le bureau de M. Legault et Mme Guilbeault avait été informée dès l'été, en fait, juin 2023, pour ce qui est de Geneviève Guilbeault François Legault.
Oui, 2027, ça s'en vient dans 2 ans, ça. Dans un an, oui.
Ça va peut-être les poursuites qui vont être terminées.
L'été 2023. Donc, est-ce qu'on doit pointer...
L'été 2023, juin, oui.
On doit pointer du doigt davantage Geneviève Guilbeault que François Legault?
Ben, moi, je pense que... François Legault, on sait que son bureau a été informé de la situation. Est-ce que lui-même, personnellement, l'a été? Alors que Geneviève Guilbeault, elle a participé à une rencontre, et puis ça, c'est démontré dans le rapport, où toutes les informations ont été données. Je pense que Geneviève Guilbeault a vraiment menti plus délibérément que François Legault, qui peut-être avait pas été informé par son entourage. Il y a aussi Éric Kerr qui était responsable de ce dossier-là au gouvernement, qui est pointé du doigt.
La cybersécurité, oui.
Oui, assez sérieusement. Alors, moi, je pense que quand même, ça a été mentionné par les partis d'opposition, il y a des responsabilités politiques là-dedans, même si c'est sûr que la direction de la SAQ a menti au gouvernement, mais il y a eu des alertes qui auraient dû théoriquement les amener à réagir beaucoup plus fortement et beaucoup plus rapidement que ça a été le cas. Dans le rapport, d'ailleurs, on parle d'une certaine nonchalance de la part d'Éric Kerr, une insouciance, un désintérêt face à la chose. Et ça a coûté $1 milliard. Là-dessus, c'est intéressant aussi de voir que la commission ne veut pas donner de chiffres exacts parce que ce qu'on avance, c'est qu'il y a plusieurs méthodes pour calculer le coût, mais quand même...
C'est de l'argent, ça reste que c'est de l'argent qui vient de nos poches, ça, Pierre.
Exactement.
C'est enrageant.
La grosseur du chiffre, la commission Galland dit, ça ressemble sûrement à ce que la vérificatrice générale a dit. Puis elle, c'était 1 100 000 000. Alors, donc, c'est le double de ce qui était prévu.
Bref, du gros cafouillage, un problème avec la machine bureaucratique du gouvernement encore qui s'est encrassée, enlisée dans tout ça.
Un manque d'expertise, tout simplement. C'est le résultat des coupures qui ont été faites au fil des ans auprès des professionnels du gouvernement. Voilà. Alors, je pense que le syndicat des professionnels a un beau dossier, là, pour faire des demandes en termes d'effectifs et d'effectifs compétents pour l'avenir.
Merci, Pierre Paquette.
Merci. Bonne soirée.
Lanaudière PM. Affaires.
L'entreprise d'évolution de la Valtrie, qui est un leader mondial en cybersécurité, a ouvert la semaine passée un bureau à Malagua, en Espagne, qui est destiné à servir l'Europe en entier et qui représente plus de 60 à 65 % de sa clientèle. Michel Arnois a eu l'occasion de rencontrer le président-directeur général, David Hervieux.
David Hervieux, dernière fois qu'on s'est parlé, ça fait un petit bout, il y a 5 ans environ. C'est évolué depuis. Faites-moi donc peut-être un peu la nomenclature de ce qui s'est passé au cours de ces années.
5 ans, c'est quand même très, très long. Dans le fond, on a grossi peut-être... il y a 5 ans, on était peut-être un 100 quelques employés à maintenant pratiquement 250. On a agrandi notre bureau à la Valtrie et la COVID nous a fait ralentir, mais dans le fond, après ça, ça a reparti de plus belle. On vient de finir un bel agrandissement à la Valtrie, fait qu'on est vraiment ancré. On doit être un 200 quelques à la Valtrie. Sinon, on a des gens maintenant à Ottawa. On a des gens à Madison aux États-Unis. Puis, on a ouvert cette semaine notre bureau de Malaga en Espagne. On avait déjà des gens en Europe. Puis, faut pas se tromper, c'est pas pour couvrir l'Espagne, c'est vraiment pour couvrir toute l'Europe. Fait que la plupart des gens à Malaga parlent allemand, qui est un de nos gros marchés. Ça va très vite, là.
Donc, le marché européen, là, est vraiment à votre portée, là.
Le marché européen a toujours été très, très bon. On est peut-être entre 60-65% dans le marché européen, ce qui est quand même intéressant parce que notre plus gros marché demeure les États-Unis, mais d'avoir une certaine diversité de marché, c'est toujours intéressant pour survivre aux fluctuations ou aux instabilités politiques.
Bon, pour les besoins de notre auditoire et de façon à vulgariser le plus possible ce que vous faites, vous me dire ça en 60 secondes à peu près.
Ah, c'est bon. 60 secondes, j'ai peut-être le temps. Dans le fond, nous, on est une entreprise de logiciels. On fait des produits que l'on vend à des gestionnaires, des professionnels des technologies. Donc, les gestionnaires réseau, la plupart du temps, dans les entreprises, vous avez des gens qui s'occupent du parc informatique. Donc, nous, on fait des outils pour améliorer leur productivité, leur sécurité. C'est notre produit principal, permet de se connecter et de gérer les ordinateurs, les serveurs, soit internes, soit dans le cloud. Donc, c'est un outil de connexion à distance, de gestion de mots de passe et d'accès privilégié. Les accès privilégiés, si je l'explique un petit peu plus en détail, c'est que ces gens-là, des technologies, ont accès à beaucoup, beaucoup de données sensibles dans les entreprises. Donc, il faut qu'il y ait une façon de les restreindre puis qu'à certains moments, ils puissent dire, là, j'ai besoin d'un accès à une boîte courriel d'un employé qui a quitté, par exemple. Mais il ne faut pas que ça puisse se faire n'importe comment. Donc, c'est avec des autorisations puis plusieurs personnes qui surveillent. Connexion à distance, mots de passe, c'est pas mal... Les mots-clés à retenir.
Protocole aussi,
Je voulais pas aller dans le technique, mais tous les protocoles de communication, nous, on est très agnostiques, fait qu'on vient s'intégrer. Les technologies de l'information, c'est excessivement large, donc on est une espèce d'agrégateur de toutes ces technologies-là pour centraliser l'information et justement permettre que ce soit facile, parce qu'on n'accède pas à un ordinateur Windows comme on accède à un ordinateur Mac, on n'accède pas à un serveur Linux comme on accède à un serveur Windows, et on va souvent, les gens connaissent les mots de passe pour l'Internet sur les sites web, mais on fait cette partie-là, mais c'est beaucoup, beaucoup plus large en technologie de l'information.
C'était un gros investissement ici à la Valtrie, votre agrandissement?
Un énorme investissement. Je dirais que si on était un peu, je vais être un petit peu particulier, mais si on était brillant, on ne l'aurait pas fait à la Valtrie, on l'aurait fait dans un grand centre comme Montréal et Québec. Mais comme on joue ce qu'on appelle la partie longue, là, que je dirais, c'est pas important parce que dans le fond, l'argent qu'on a mis à la Valtrie aura jamais autant de valeur la première année que si tu l'investis dans un grand centre. Mais quand tu investis à attirer ton talent, qui c'est pas de l'immobilier, parce que ce qu'on investit, c'est pas un investissement immobilier, c'est pas important. Par contre, là, ça, c'est le côté logique financier, mais le côté affaire d'attirer le talent à la Valtrie, c'est vraiment intéressant. Puis là, ça nous permet d'avoir un super beau campus et d'avoir des gens qui sont contents de venir travailler. On reste qu'on donne particularité. Lancez-moi pas de tomates. Nous, on fonctionne en mode hybride. On croit beaucoup aux connexions entre les gens. Là, je veux pas faire un jeu de mots avec les connexions à distance, là, qui est notre pain et notre beurre, mais que les gens puissent se rencontrer. Puis l'hybride offre ces bénéfices-là. Puis d'être à la Valtrie, ben on a du stationnement. C'est une belle ville. On a plein de belles villes dans la Naudière. Puis j'incite les gens à voir les points faibles des fois de leur petite ville ou petit village comme un opportunité et d'utiliser leurs forces. On a le fleuve, il y a plein de belles choses.
On parle d'un investissement de combien?
Dans le fond, si on regarde, là, je crois qu'on est à peu près à 18 millions si on inclut l'acquisition de terrain, les stationnements, tout le matériel, ça va vite, toutes les autres rénovations connexes. C'est quand même un bon investissement, mais qu'on est très, très fiers d'avoir fait. Puis que même si j'ai dit que t'as pas un bon investissement immobilier, on en est fiers. Puis dans 10 ans, ça paraîtra même plus. Ça va être un bon investissement.
Michel Arnoy qui s'entretenait avec David Hervieux, le PDG de Dévolution à la Valterie, leader mondial en cybersécurité. Il est à 16h59. Je remercie nos collaborateurs à l'émission aujourd'hui, François Morin, Régent Turgeon, Pierre Jubinville, Pierre Paquette, ainsi que Michel Arnoy. Ici Claude Fournel. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Nous, on sera au rendez-vous demain à 16h pour une autre édition de l'Anneau d'IRPM. Et entre-temps, manquez pas Nicolas Bellemare qui s'en vient dans un tout petit moment de l'autre côté de l'actualité avec le 5 à 7 trad de CFNJ. Bonne soirée!